Bonjour à tous. J'ai une petite question pour commencer. Avez-vous déjà vu une personne radicalement transformée, radicalement changée? Si oui, qu'est-ce que cela produit? Nicky Cruz, plus jeune dans son enfance, était un enfant battu par sa mère. Il a littéralement été brisé à l'âge de 9 ans quand sa mère lui a dit « Nicky, tu n'es pas mon fils. Je maudis le jour où tu es né. » Plus tard, devenu grand, il devient leader d'un gang à New York. Il a plus de 300 personnes sous ses ordres. Écoutez ce qu'il dit. « Dans la jungle de New York, j'étais devenu un animal qui a besoin de tuer pour survivre. » Comment changer une personne comme ça? Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ a radicalement transformé la vie de Nicky Cruz. Il affirme après, « J'ai échangé mon arme contre une Bible. Dorénavant, j'appartiens à Jésus-Christ. » Que s'est-il passé? Dieu a mis un fardeau dans un homme qui s'appelle David Wilkerson, un pasteur à New York qui a osé aller dans le quartier où vivaient des délinquants, des criminels, pour leur parler de la part de Dieu. Accepteriez-vous aujourd'hui d'aller vers des délinquants à Grenoble pour leur parler de la part de Dieu? Accepteriez-vous d'aller auprès de criminels, des personnes même qui peuvent vous tuer pour leur parler de la part de Dieu? Ce matin, nous allons voir que Dieu change en profondeur une ville rebelle. Dieu métamorphose une ville rebelle. Les meurtriers vont renoncer à leurs crimes. Des personnes violentes vont renoncer à leur violence. Une ville de paix. Vous voulez vous aspirer à ce que le mal cesse? Vous rêvez d'un monde plus juste? Eh bien, la Bible nous répond, c'est possible. Et ça, c'est magnifique. On va le voir. L'histoire que nous allons lire, elle est extraite d'un livre qui a plus de 2500 ans. En sorte que, imaginez qu'on vous donne une lettre aujourd'hui qui est vieille de plus de 2500 ans, vous n'êtes pas le premier destinataire de cette lettre-là. Vous êtes des destinataires secondaires. De même, le livre que nous allons lire, c'est une lettre que Dieu écrit à son peuple, au peuple d'Israël. Et on peut se demander, qu'est-ce que Dieu voulait leur dire? Que vivait le peuple d'Israël au moment où ils vont recevoir ce message? Écoutez bien. C'est Dieu lui-même qui va donner la situation de son peuple. Et il va utiliser un intermédiaire, un prophète du nom d'Amos, qui va dire, le peuple, ils ont vendu le juste pour de l'argent. Le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Le peuple d'Israël est rebelle. Le peuple d'Israël est loin de Dieu. Et pour parler à son peuple pour une énième fois, pour parler à ce peuple rebelle qui est adultère, qui est violent, Dieu va montrer le changement radical qu'il veut produire en eux. Et comment il va s'y prendre? Eh bien, Dieu va produire ce changement dans la vie des ennemis de son peuple, dans la vie des adversaires de son peuple. Dieu va envoyer un messager à Ninive. Et le problème, c'est que ce messager-là ne veut pas y aller. Ne veut pas aller auprès de ce peuple. Autrement dit, ce messager est lui-même rebelle, tout aussi bien rebelle que le peuple d'Israël lui-même. Lui aussi a besoin que Dieu le transforme radicalement. Regardons ça de plus près. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Jonas, c'est à la page 594 pour les Bibles qui sont devant vous. Ok. Avant de lire, j'aimerais juste que vous regardiez avec moi. Regardez le chapitre 1 de Jonas. Dans le premier verset, Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive. Que fait Jonas ? Jonas désobéit, il s'enfuit à l'opposé de Ninive. Il va à Tarsis. Maintenant, regardons le chapitre 3 qui nous concerne ce matin. De la même manière, Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, au premier verset. Qu'est-ce que Jonas fait ? Jonas obéit. Jonas va à Ninive. Il y a clairement un changement. Que s'est-il passé ? Tout est dans le chapitre 2. Dieu s'est révélé de façon particulière à Jonas. Dieu produit un retournement dans le cœur de Jonas qui pousse le rebelle à obéir. Désormais, Jonas incarne par sa vie le changement que Dieu veut produire au sein de son peuple. C'est énorme. Mais ça, c'est juste une petite introduction. C'est un peu comme le repas de ce midi, il y a une entrée. Ça, c'est juste une petite entrée. Il y a un vrai plat de résistance qui arrive. Et je vous invite à le découvrir dans le chapitre 3. Nous allons voir comment Dieu métamorphose une ville rebelle, la ville rebelle de Ninive. La violence va disparaître. Si vous rêvez d'un monde plus juste, eh bien vous verrez comment Dieu change radicalement les cœurs. Si vous vous demandez, mais que fait Dieu face à l'injustice ? Vous aurez également des éléments de réponse. Vous allez voir que Dieu n'est pas insensible à l'injustice. Il n'est pas insensible au mal. C'est tout le contraire. Lisons ensemble. Peut-être une dernière remarque avant d'aller plus loin. J'ai une petite demande. Comme vous l'avez vu de vos propres yeux, la structure du texte, le fait de voir ce texte nous parle. Et donc c'est important que vous puissiez suivre avec moi, regarder avec moi dans vos Bibles. Et c'est pourquoi je vous invite à les garder ouvertes pour que nous puissions l'interroger ensemble, que nous puissions examiner cela ensemble et c'est comme ça que vous allez vous faire votre propre avis et surtout vous allez vérifier que ce que je dis est bien exact. Alors, lisons ensemble, Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole que l'Éternel de l'Éternel. Or, Ninive était une ville immense. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Dans 40 jours !» Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas, ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait ? Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas ? Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors il regretta le mal dont il avait menacé. Il les avait menacés et ne le fit pas. Ce texte nous présente un véritable retournement de situation. Dieu parle, il y a un changement qui se produit. Au début, il y a une condamnation. Le peuple est coupable. Et à la fin, les Ninivites sont acquittés. Quelque part. Dieu débarrasse la ville de Ninive de son mal, de sa violence. Il le fait sans détruire les rebelles. Dieu débarrasse la ville de Ninive de son mal, de sa violence, et il le fait sans détruire les rebelles. Comment Dieu réalise cette métamorphose, ce changement ? C'est ce que nous allons voir. Et pour cela, nous allons répondre à 3 questions. Pour commencer, par quel moyen Dieu produit ce changement radical chez les rebelles ? Ensuite, nous verrons en quoi consiste ce changement radical que Dieu opère, que l'on observe dans ce texte. Et pour terminer, on va répondre également à comment Dieu acquitte les rebelles qui sont radicalement changés. On commence avec le premier point. Par quel moyen Dieu produit un changement profond chez les rebelles. Eh bien, Dieu produit ce changement en révélant sa justice. Il juge, il condamne à mort les habitants de Ninive à cause de leur méchanceté. Regardez le verset 1. Il nous fait mention de la parole de l'Éternel. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle. Il parle, il a un message spécifique pour les Ninivites. Et Jonas, ici le prophète, est l'intermédiaire chargé de délivrer ce message. Et quel est le contenu de ce message? Quel est le sens de ce message? Regardez le verset 4. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dieu annonce son jugement. Dieu va complètement anéantir les Ninivites. Mais pourquoi, me diriez-vous? La réponse se trouve dans le même livre. Regardez le verset 2 du chapitre 1, où Dieu va s'adresser à Jonas, il va dire « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » En résumé, Dieu est en train de dire « Dans 40 jours, vous, habitants de Ninive, vous allez mourir à cause de votre méchanceté. » Alors, Ninive, c'est quoi Ninive? Comme il a dit, Jo, c'était la capitale de l'Empire assyrien. C'était un peuple conquérant, qui a longtemps dominé la sous-région. Et ce peuple inspirait quelque part la terreur à leur adversaire. Pour vous donner une idée de leur barbarie, je vous invite à écouter les paroles d'un historien, un assyriologue qui s'appelle Albert Grayson. Il écrit un livre, Inscription royale assyrienne. Voilà ce qu'il dit. C'est un roi qui parle, un roi de Ninive qui parle. J'ai écorché tous les nobles qui s'étaient rebellés contre moi. J'ai drapé leur peau sur des cadavres, érigé certains d'entre eux sur des pieux. Un massacre, une cruauté, devant laquelle plusieurs rois abdiquaient. Et l'archéologie nous rapporte que Jéhu, un des rois en Israël, un peu plus de 28 ans avant l'épisode qu'on est en train d'étudier ce matin, avait accepté de payer un tribut à la Syrie. Les Assyriens étaient clairement les ennemis d'Israël. Quelle est la réaction de Dieu face à une telle cruauté, à une telle injustice? Dieu est dans une ardente colère face au mal. Le roi ici, c'est lui qui le reconnaît. Regardez le verset 9 du texte. Il dit, qui sait si Dieu ne se ravisera pas, ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère? Dieu est en colère. Il est en colère à cause de sa justice. Parce qu'il est juste, il ne peut pas regarder le mal sans rien faire. Ses yeux sont trop purs pour voir la violence des Ninivites. Et Dieu doit juger. Dans son jugement, il veut débarrasser Ninive de sa cruauté. Et cela implique de mettre à mort les Ninivites. Toute la ville doit être détruite. C'est tout aussi valable pour le peuple d'Israël, qui est endurci. Dieu condamne par ça, l'attitude de son propre peuple, qui lui aussi est loin de Dieu. Dieu est contre la corruption qui règne au sein de son peuple. Il condamne l'attitude de son peuple vis-à-vis des pauvres. Il condamne la sexualité dépravée de son peuple. Pour Dieu, il est hors de question que le fils et le père aillent vers la même fille. Qu'en est-il pour nous? Pour ne pas l'ignorer comme le font les Israélites, Dieu nous appelle à reconnaître sa justice en appelant mal ce que lui qualifie de mal. Si chacun détermine pour lui-même le bien ou le mal, de quel droit diriez-vous que voler, c'est pas bien? C'est ce que les Ninivites font ici. Enfin, c'est ce que le peuple d'Israël faisait aussi. Dieu nous appelle à reconnaître notre péché et à y renoncer. On peut facilement regarder à la faute des autres, mais on oublie souvent la nôtre, notre faute à nous. C'est ce que Jonas fait quand il refuse d'aller vers ce peuple, qu'il juge trop mauvais. Sans s'en rendre compte, en agissant ainsi, Jonas montre que lui aussi a besoin d'être sauvé, délivré de son endurcissement, de son égoïsme. Parce que le peuple d'Israël est tout aussi pécheur que les Ninivites. Ils ne sont pas meilleurs. De même, Dieu connaît chacune de nos pensées. Il juge l'état de notre cœur tout aussi bien que les actes que nous posons. Et il condamne cette propension de se sentir meilleur que les autres. Si aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous nous sentons de meilleures personnes moralement, nous tombons dans le même piège si en regardant le comportement de nos voisins, de notre collègue, de classe, enfin du bureau, nous pensons que nous sommes une personne meilleure moralement, on se comporte mieux, et bien finalement on établit une distance et on se trompe lamentablement. Et c'est valable pour l'Église. Si on se sent meilleur que les autres parce que nous obéissons mieux à Dieu, mieux à Jésus, eh bien, Dieu nous demande de reconnaître notre orgueil et de nous repentir. Nous ne sommes peut-être pas des meurtriers, mais Dieu voit et condamne la violence de nos paroles. La manière dont nous parlons à notre conjoint, à notre frère, à nos parents, Dieu le voit et Dieu le condamne. Dans la Bible, Jésus dit que l'adultère, ce n'est pas seulement les actes, c'est aussi les pensées qui nous animent. Jésus va dire, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'est dans Matthieu. Jésus condamne les actes, mais aussi les désirs, les pensées qu'on a dans notre cœur. Et ce même Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si on se dit disciple de Christ, alors nous devons considérer ces paroles, les paroles du Maître, avec sérieux. Parce que Jésus est le prophète par excellence. Il est à la fois le messager, mais également le message lui-même de Dieu pour l'humanité. Jésus n'a pas hésité à venir dans un monde rebelle, à venir parmi les rebelles. Il est venu sachant qu'il allait être rejeté pour nous parler, comme Jonas le fait chez les Ninivites. Et il nous demande d'aimer nos ennemis, d'aimer notre prochain. La ville de Grenoble sera radicalement métamorphosée si nous vivons ces paroles. Dieu est en colère. Il est en colère à cause de sa justice. Il veut ôter le mal, et cela implique, comme on le voit, mettre à mort les pécheurs, ici les Ninivites. Mesurez-vous l'ampleur du changement que cela coûte pour des meurtriers de changer. Ce qui se passe dans ce texte est beaucoup plus profond que des simples paroles. Pour qu'un meurtrier change, Dieu doit nécessairement opérer un changement radical dans les cœurs. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. En quoi consiste ce changement radical que Dieu opère chez les rebelles? Observez le verset 5, il nous donne un élément de réponse. Le verset 5 nous dit, les Ninivites croient en Dieu. Les Ninivites ont la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? Il y a quelques éléments dans le texte. On voit dans ce texte que la foi découle de la révélation de la parole de Dieu. On voit que les Ninivites changent. Il y a une repentance qui est là, une repentance radicale. Et c'est une repentance qui a lieu à l'intérieur et qui s'extériorise dans les actions qu'on voit là. Et à la fin, au verset 8, on voit que ces Ninivites-là appellent Dieu pour que Dieu les sauve. D'après ce texte, pour avoir la foi, il nous faut une révélation spéciale personnel de Dieu. La foi découle des Écritures. Les Ninivites ne se seraient jamais tournés vers Dieu si Dieu ne s'était pas révélé à eux, premièrement. Kevin DeYoung, un pasteur américain, affirme « La révélation générale ne suffit pas pour nous sauver. Nous ne pouvons pas parvenir à une connaissance de Dieu qui procure le salut uniquement par l'expérience personnelle et à la raison. Si nous voulons vivre la foi chrétienne, sachez qu'il ne s'agit pas simplement de connaissance. Il ne s'agit pas simplement de savoir que Dieu est le mal, que Dieu est la violence ici. On a tous été un enfant. Les enfants savent ce que les parents détestent. Ce n'est pas pour autant qu'ils changent et obéissent. Les historiens qui lisent la Bible savent ce que Dieu est. Ont-ils pour autant la foi? Non. Les Ninivites ici ont quelque chose de plus. Il ne s'agit pas non plus simplement d'être d'accord avec ce que Dieu dit. Encore une fois, les enfants sont souvent d'accord avec ce qu'on leur interdit. Tu ne feras pas ça? Ok, ils acceptent. Mais ce n'est pas une garantie quant à leur obéissance et à leur adhésion sincère. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, Paul dit « L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Autrement dit, si les Ninivites croient en Dieu, c'est parce que Dieu illumine leur cœur et suscite la foi. Est-ce commun de voir des meurtriers changer en un jour? La réponse est clairement non. Mais regardez le texte, regardez le verset 3 et le verset 4. La ville est immense. Il fallait 3 jours pour la parcourir. Au bout de combien de jours Dieu suscite la foi? Le texte nous dit un jour, au bout d'une journée. Si nous voulons vivre la vraie foi chrétienne, eh ben, nous pouvons prier, demander à Dieu de nous parler spécifiquement par sa parole. Demandons-lui de nous aider à obéir à sa parole. La foi pousse à l'obéissance. Dieu a profondément changé le cœur des Ninivites et ce changement qui a lieu à l'intérieur se voit aussi à l'extérieur. Regardez, les Ninivites veulent obéir à Dieu. C'est pour cette raison qu'ils se repentent, qu'ils veulent changer. Quelques mots sur la repentance. On va regarder les versets 8 et 9. Le roi parle. Le roi, il dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Le sac et les cendres qui sont mentionnés ici, plus haut, sont tout simplement un signe extérieur de l'état intérieur. Ils sont juste là pour illustrer la transformation qu'il y a lieu dans leur cœur. Je poursuis. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. La repentance, ce changement radical, implique de reconnaître son péché. Ils sont clairement affligés à cause de leur péché. Ils renoncent à leur péché pour obéir à Dieu. Et regardez la suite, le verset 9. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. C'est quoi la repentance en résumé? C'est reconnaître son péché. C'est être affligé au fond du cœur à cause de notre péché. C'est reconnaître que Dieu est offensé comme les Ninivites le font ici. C'est renoncer à ce péché-là pour obéir à Dieu. Et c'est exactement ce que les Ninivites font aussi. Ils crient à Dieu pour que Dieu les sauve. Dans le psaume 51, David dit, et David a commis un adultère, et à la fin il rédige un psaume de repentance. Il dit, « Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté. Conformément à ta compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles et sans reproche dans ton jugement. » Dieu est en colère à cause du péché de son peuple. Il veut opérer un changement en profondeur. Qu'est-ce que cela implique pour nous? La foi et la repentance marquent le début de la marche avec Dieu. À 14h30, aujourd'hui, nous aurons des baptêmes. On aura Zoé, Lara, Rudy qui vont témoigner de leur foi, mais aussi de leur repentance. Ils vont nous dire comment Dieu s'est personnellement révélé à eux par sa parole. Comment Dieu a produit un changement radical dans leur vie, a produit cette repentance. Mais il y a beaucoup plus. La foi et la repentance doivent également continuer dans notre marche avec Dieu, dans notre vie avec lui, et doivent continuer à grandir tout au long de notre vie. Écoutez ce que Jean, l'un des 12 apôtres, dit aux chrétiens. Si nous disons que nous n'avons pas péché, il s'adresse à des chrétiens. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. La vie chrétienne est une vie de repentance. La vie chrétienne est une vie permanente de repentance. Dieu nous appelle à vivre notre foi en reconnaissant, à mesure que nous grandissons, notre péché, tout au long de notre vie. C'est le début, mais ça se poursuit aussi. Dieu nous appelle à confesser, à reconnaître notre péché. Et le texte nous dit dans Jean, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La semaine dernière, avec Véro, on était à Strasbourg pour voir ma famille. C'était génial de revoir mes neveux, de revoir mes cousins, c'était génial. Il y avait de la joie, mais il y avait aussi de la tristesse. J'étais triste parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et c'était triste pour moi. À deux reprises, je les ai entendus dire, de toute façon, je ne crois pas. Je ne crois pas en Dieu. Même les enfants, enfin, c'est l'enfant qui l'a dit et ça m'a... J'ai eu un petit pincement. Face à cette opposition, j'étais triste. Mais là où le Seigneur m'a repris, c'est que je doutais. Je doutais que face à cette opposition-là, que Dieu puisse pouvoir les changer. Et Dieu m'a repris. Dieu m'a repris. Il m'a dit, Rolly, est-ce que tu crois que je peux transformer leur cœur malgré tout ce que tu vois? Si oui, parle de moi et moi je m'occupe du reste. J'ai dû confesser mes doutes à Dieu, mes pensées. J'ai dit, Seigneur, je doute. Et je lui demande encore, aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à faire pleinement confiance, à te faire pleinement confiance. Tu es celui qui transforme le cœur des rebelles. Dieu est celui qui transforme les cœurs des Ninivites qui sont là. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas me laisser ébranler par ce que je vois, que je parle simplement en ton nom, que je puisse prier pour eux et que je te laisse faire ton travail. C'est lui qui transforme les vies. Est-ce que nous le croyons ce matin? Est-ce que nous croyons que Dieu peut transformer des vies dans notre ville de Grenoble? Est-ce que nous croyons que Dieu peut transformer les vies de notre entourage, des personnes qui sont autour de nous? Quand bien même elles semblent rebelles. Le texte nous invite à reconnaître notre péché. Est-ce que nous sommes sensibles à notre péché? Quel exemple suivons-nous? Celui des Ninivites qui reconnaissent leur péché et le confessent à Dieu, ou plutôt celui des Israélites qui sont endurcis? Est-ce que notre péché nous dérange? Est-ce que le péché est quelque chose que nous considérons comme étant mauvais? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, là, maintenant? En tant que chrétien, la vie chrétienne, ce texte nous dit que la vie chrétienne est une vie de repentance. Si nous sommes égoïstes, Dieu nous demande de confesser notre égoïsme, d'être généreux, bienveillant comme lui, il est. Si nous luttons avec le pardon, Dieu nous appelle à reconnaître notre résistance et à pardonner. Si nous luttons dans notre sexualité, Dieu nous rappelle, nous demande de reconnaître nos luttes, de le confesser, parce que lui est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Tout à l'heure, on a chanté un cantique, c'est le cantique 11, et dedans on a dit « Par ta puissance, brise, soumets ma résistance. À tout jamais, courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. » Est-ce que c'est ce que nous voulons vraiment pour nos vies? Alors, on a vu que dans ce texte, Dieu proclame sa parole, il proclame sa justice. On a vu que Dieu nous invite à vivre la foi et la repentance en continu. Et pour terminer, on va répondre à une dernière question. C'est comment Dieu acquitte les rebelles? Il y a un thème de justice dans ce texte. À la fin, les rebelles ne sont pas punis. Comment Dieu acquitte les rebelles? Je vais relire le verset 10. Dieu vit ce qu'ils faisaient et il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Dieu débarrasse la ville de Ninive de son mal, de sa violence, sans détruire les Ninivites. Les rebelles sont vivants. Est-ce que vous voyez comment Dieu sauve ? Dieu aurait pu tout simplement les anéantir, sans leur envoyer Jonas. Ils étaient coupables de toute façon. Pourquoi leur envoyer quelqu'un ? Ils sont déjà coupables. Dieu manifeste sa grâce en parlant à ce peuple, en envoyant un messager pour parler à ce peuple. Malgré sa colère, Dieu veut sauver parce qu'il aime. En quoi cela est troublant ? D'un côté, on voit que Dieu renonce à sa colère. Il épargne de la mort. De l'autre, Dieu fait grâce, il pardonne, il laisse la vie dans son amour. C'est troublant parce que Dieu semble avoir changé. Il semble regretter son jugement, comme on le voit. C'est troublant parce que la colère de Dieu semble s'être évaporée quelque part. Le texte nous fait mention d'une ardente colère. Dieu a-t-il changé en un clin d'œil ? Comment concilier, d'un côté, la colère ardente de Dieu, mais aussi son amour, comme on l'a chanté aujourd'hui ? Écoutez ce que dit Don Carson dans l'un de ses livres. Don Carson, c'est un professeur de théologie. Il dit « Notre problème, en partie, est que dans l'expérience humaine, la colère et l'amour demeurent dans des compartiments séparés. L'amour chasse la colère et la colère chasse l'amour. Nous avons du mal à penser qu'une personne en colère aime. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le cas pour Dieu. La colère de Dieu n'est pas une rage implacable, aveugle. Aussi émouvante soit-elle, c'est une réponse tout à fait raisonnable et délibérée aux offenses contre sa sainteté. Mais son amour jaillit au milieu de ses perfections, en sorte que son amour n'est pas dépendant des hommes, de l'être aimé. Il n'y a donc rien d'intrinsèquement impossible à propos de la colère et de l'amour de Dieu dirigé vers le même individu ou les mêmes personnes en même temps. Cela signifie que Dieu aime à 100% au max, mais Dieu est également en colère contre le mal à 100% au max. Dieu aime au maximum, mais Dieu est contre le mal aussi au maximum. Quelque part, ce n'est pas correct de dire que Dieu est le pécheur et que Dieu est le péché et que Dieu aime le pécheur. Quelque part. Ce n'est pas correct de dire que Dieu est le péché et que Dieu aime le pécheur. Et je sais que je l'ai dit moi-même. Dans la mesure où le péché fait partie de la nature de l'être humain, en sorte que les deux, d'un côté le péché et la nature humaine sont liés, qu'on ne peut pas se débarrasser de notre péché, il serait plus judicieux de dire que Dieu est en colère au maximum contre le pécheur et que Dieu, de la même manière qu'il aime. Il n'y a pas juste un côté. Pour ceux qui participent à la formation qu'on a avec Raph, qui est dispensée au sein de notre église, le thème de ce verset, c'est un peu ce qu'on appelle l'impassibilité de Dieu, dans le sens où Dieu ne change pas en fonction de nous. Les Ninivites ici, ce n'est pas les Ninivites qui font changer Dieu. Dans sa nature divine, il ne change pas. Ça ne veut pas dire que Dieu est statique, qu'il est immobile. On le voit agir dans ce texte. Si Dieu changeait, on serait mal. Nous n'aurions aucune garantie quant à ses promesses. Mais alors pourquoi ? Pourquoi Dieu passe l'éponge par rapport aux Ninivites ? La réponse, c'est à cause de la croix. À la croix, la colère de Dieu et son amour ont été déversés à 100%. Je vais lire dans Romains. Mais maintenant, La justice de Dieu témoigne de la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Vous voyez la même chose que moi dans le texte ? Voilà comment Dieu manifeste sa justice. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes sous la colère de Dieu. En tant que créature, nous méritons la mort car Dieu est notre créateur. Et comment Dieu manifeste sa justice ? Il démontre sa justice. Ainsi, puisqu'il l'avait laissé, le texte nous dit qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Et c'est comme ça que Dieu démontre sa justice. Jésus a subi la condamnation des Ninivites. Et c'est à cause de ça qu'ils sont acquittés. La colère de Dieu ne s'est pas évaporée. Voilà pourquoi les Ninivites sont acquittés quelque part. La Bible nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous avons Jésus. Mais il y a plusieurs années avant, les Ninivites, eux également, avaient besoin de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu sauve par la foi. Dans le Nouveau Testament, Dieu sauve par la foi au travers de Jésus-Christ aussi. Voilà comment Dieu acquitte les pécheurs. J'ai commencé cette prédication en demandant, avez-vous déjà vu une personne radicalement transformée, radicalement changée ? J'en ai deux autres, plus sérieuses, à vous poser. Est-ce que vous voulez que Dieu vous change, vous, radicalement ? Est-ce que Dieu a acquitté votre péché ? Je conclue. Par quel moyen Dieu produit le changement radical chez les rebelles ? Eh bien, Dieu change les vies, on l'a vu par sa parole, qui pointe vers Christ. En tant que disciples de Christ, Dieu nous demande d'être des témoins dans notre ville, dans la ville de Grenoble, là où nous sommes. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. On est d'accord, c'est ce que Jésus dit. Mais une petite remarque, Jésus n'était pas seulement l'ami des croyants. On est d'accord. Les pharisiens le détestaient parce qu'il fréquentait les personnes de mauvaise vie, des voleurs, des prostituées. Qu'est-ce qu'il en est pour nous ? Est-ce que nous développons de vraies amitiés avec nos amis qui ne sont pas croyants ? Est-ce que notre foi nous pousse, au contraire, à creuser l'écart avec nos amis à cause de leurs péchés ? Si c'est le cas, nous devons nous repentir. Car celui que nous prétendons suivre, à savoir Jésus, était réputé pour être l'ami des pécheurs. En quoi consiste ce changement radical que Dieu opère ? On l'a vu, Dieu nous invite à vivre la foi et la repentance en continu tout au long de notre vie. La foi et la repentance marquent le début et la suite de la marche avec Dieu. En tant qu'Église, Dieu veut nous transformer, vivifier notre foi au travers du changement qu'il peut produire dans la vie de l'un ou de l'autre, comme c'est le cas dans ce texte. Et pour nous aider, peut-être, je vous suggère, que pensez-vous d'un groupe de croissance ? C'est un moyen pour vivre la redevabilité. De façon régulière, vous allez voir une personne, vous allez vous encourager à vivre votre foi, mais aussi à partager vos luttes, à confesser vos péchés. Et c'est biblique. Dieu nous demande de confesser nos péchés aussi les uns les autres. Ed Lambert, qui a écrit un bouquin sur la pureté, sur la pornographie, il dit « S'engager dans une relation de redevabilité digne de ce nom, c'est difficile. Cela exige un esprit d'initiative, de la franchise, de la pureté dans les conversations, de la maturité. Sans compter qu'il faut assumer la responsabilité de son péché. Il faut plus que de l'audace pour le vouloir, il faut de la grâce. » Voilà un moyen concret. Par où commencer ? Allez voir des diacres, demandez à votre responsable de groupe de semaine. Pour les jeunes, allez embêter vos responsables de groupe de jeunes. Marion, Johnson qui est là, Véronica, demandez-leur de vous aider à trouver quelqu'un si vous le souhaitez. Et enfin, comment Dieu acquitte les rebelles qui sont radicalement changés ? On a vu, il a pourvu Jésus. Nous sommes désormais justes à cause de la croix. C'est cette justice-là qui nous permet de tenir devant Dieu face à sa colère. On peut poursuivre ensuite, si vous avez des questions, vous pourrez en reparler dans les groupes de semaine, c'est la semaine qui suit. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole et je te prie de simplement nous transformer, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour vivre ce qu'on a, ta parole, pour vivre cette foi-là que tu nous appelles à vivre, pour vivre la repentance aussi. Et je te remercie parce que tu nous as acquittés. En ton nom, j'ai prié. Amen.